C'est bien plaisant d'être avec vous ce matin. Oui, mission accomplie, j'ai pesé sur la bêche. Bien content de revoir des bons vieux anciens de l'Église. Et vous savez, je suis un petit peu dans l'histoire de l'Église et puis je suis avec l'association, de voir l'Église se promener, baisser, grandir, s'affermir. Et c'est intéressant de voir que l'Église est bien vivante et là, et que c'est bénissant d'être avec vous ce matin. Merci pour les gens, la louange, qui nous amène et ramène vers le Seigneur, qui, c'est lui, en espérant par la grâce de Dieu, qui sera nous parler ce matin à travers sa parole. D'abord, mon nom est Charles Nicoté, pour ceux qui ne me connaissent pas, et mon épouse Lise. On est des nouveaux résidents de Saint-André d'Argenteuil depuis le 11 juillet. Et c'est bien plaisant d'être là, dans un petit coin tranquille. Et c'est comme pour moi une nouvelle ambassade, cette maison pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu change toujours, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui change les gens. Et si Dieu change les gens, l'œuvre va changer, n'est-ce pas? Et c'est intéressant de savoir et voir que Dieu change au Québec les personnes et l'œuvre change. Alors, je bénis le Seigneur. Si vous voulez avoir un peu plus de nouvelles de ce qui se passe pour l'Église, le ministère au Québec, bien, j'ai préparé un petit livret, la chambre de prière. Alors, on s'en va dans la chambre de prière, vous ouvrez le petit livret et vous allez savoir un petit peu comment prier pour Lise et moi, pour le ministère. J'en ai quelques copies, mais si vous en désirez d'autres, on vous en enverra par Internet. Certainement. Alors, ils partent au vent. Voilà. Le titre de mon message ce matin, la cognée perdue. OK, je vois des yeux faire. Qu'est-ce qu'une cognée? Et comment une cognée peut être perdue? Et vous savez, quand on étudie la parole de Dieu, juste mon cheminement pour arriver à là, c'est que je suis en train de travailler depuis quelques mois sur la vie du disciple selon Jésus. Et la vie du disciple selon Jésus, c'est pas nécessairement la vie du disciple comme nous on le pense ou comme on nous le dit, mais quand Jésus nous parle du disciple, waouh, ça change un peu nos pensées. Et en examinant un des textes que Jésus disait dans les évangiles, parce que si vous voulez apprendre qu'est-ce que c'est un disciple, il faut lire les quatre évangiles. Alors, Jésus parle de la cognée sera mise aux arbres. Alors là, je me suis dit, la cognée, c'est une maladie, c'est un puceron, c'est quoi la cognée? Mais la cognée, c'est une hache. La cognée est une hache très indispensable à l'époque, parce que c'était un multi-outil. Hein, aujourd'hui, on a des multi-outils, hein, on a une batterie avec 10 outils semblables. Ah, le technicien semble aussi, oui. Et la cognée, eh bien, c'est comme une hache, et ce que j'ai vu comme illustration possible, on a de la misère à la retrouver, c'est comme une hache à deux tranchants, vous savez, des tranchants en haut et en bas avec un grand manche. Alors, on prenait un arbre et on le taillait vraiment en planches, en poutres, en bûches, en petits bâtons, en chevilles. On faisait de cette cognée un instrument qui faisait qu'un arbre, à la fin, on pouvait avoir des bouts, des planches, des chevilles de bois et on pouvait bâtir une maison avec un instrument. En plus, avant, il prenait la cognée, il coupait les arbres et enlevait les souches. Et il pouvait écarrir un peu les souches et utiliser les souches pour en faire d'autres choses. C'est un instrument multifonctionnel. Alors, dans l'installation de notre maison, j'ai une hache comme ça à deux tranchants, mais impesante, un trop lourde. Mais j'avais un ami, un disciple, un chrétien, qui demeure pas loin de Saint-André, et il est venu nous aider à couper du bois, des arbres. Et lui, il mesure à peu près comme ça, et je me rends pas encore assez haut, là. Julien, c'est un costaud, et il remplit un but de gardien de but, là, d'accord?
il est large. Mais quand il a pris ma hache, pour lui, c'était d'une main. Puis quand il a enlevé une vieille souche grosse comme ça, alors c'est à deux mains qu'il a coupé les racines. Puis avec ses deux mains, il a fait... Alors là, j'ai vu que la cognée, ça pouvait être utile. Ça va? Mais quand on perd la cognée, on est vraiment mal pris. Au temps d'Élisée, dans 2 Rois, chapitre 6. Vous êtes là avec moi? On s'en va dans 2 Rois, chapitre 6. On a un texte qui est court, mais qui a de grandes leçons. Ça va? C'est une histoire qui est banale, on pourrait dire, mais elle n'est pas banale parce qu'elle parle de Dieu. Il n'y a aucune histoire dans les Écritures qui est banale parce qu'elle parle du Dieu qui est bon, qui est bien, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas vraiment minimiser les petites histoires. Alors, dans 2 Rois, chapitre 6, si quelqu'un voudrait lire ce magnifique texte, et vous allez voir qu'on va regarder ensemble cette histoire et certainement apprendre encore des choses. Qui de vous trois aimerait lire 2 Rois, chapitre 6, verset 1 à 7? Alors, pourquoi il te désigne? Eh bien, ton prénom?
Joël.
Joël, et toi, s'il te plaît. Et tu peux nous lire de ta voix puissante. 2 Rois, chapitre 6, verset 1 à 7.
Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi, et trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une goutte, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une goutte, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit.
Merci, Joël. Prions. Divine parole, Seigneur, tu nous as donné une parole qui est divine, et nous, les humains, on ne peut la saisir, mais lire, réfléchir à ta parole de façon humaine. C'est entendu, Seigneur, et on le reconnaît. Elle est si grande et si merveilleuse qu'on a besoin, Seigneur, de toi. On a besoin, Seigneur Dieu, d'être loin de ton Esprit Saint pour en voir la vérité, en voir ton message, en saisir le chemin que tu veux nous montrer, les voies que tu veux que nous prenions. Encore ce matin, Seigneur, je te prie pour moi comme pour chacun de nous, de nous moindre de ton esprit de force, de lumière, de vérité. Lui, l'auteur, écrivain, officiel de la parole de Dieu. On a besoin au Père, au nom de Jésus-Christ, de te demander, parle, Seigneur, inspire-nous, éclaire-nous par ton Esprit Saint. Pour ta gloire, viens Jésus, Père, nous te bénissons, te prions. Amen. Amen. Petite histoire, 7 versets, ça va? Elle arrive au temps d'Élisée. Il y a eu Élie avant. Il y a Élisée qui est arrivé. Et Élie, bien, il a été enlevé avec un char de feu, ça va? Alors, ça, là, s'il y a des gars qui aiment les chars, là, prenez pour acquis que si vous lisez Élisée, quand il est parti avec son char de feu, ben, il n'y en avait pas de plus puissant, de plus grand, de plus merveilleux, parce qu'avec ce char-là, il s'est rendu au ciel. Ça va? Tu peux te rendre au bout de ton gaz, tu peux te rendre à Québec peut-être, mais lui, il s'est rendu au ciel. Parce que c'est Dieu qui
qui l'a amené dans un char de feu. Mais en partant, Dieu lui avait dit à Élie, Élie, c'est le temps d'être remplacé. C'est pas que tu as mal fait, au contraire. C'est pas que un pasteur d'une église doit quitter pour être remplacé. C'est parce que Dieu a un autre ministère pour ce pasteur et un nouveau ministère pour un nouveau pasteur. Vous comprenez? Il faut toujours voir avec les choses de Dieu, parce que nous, on voit souvent les choses avec les yeux humains. Alors, Élie n'a pas dit, « Ah, oh, Seigneur, j'aimerais rester encore, change-moi d'église et tout ça. » Non, 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 c'est un même ciel. Et c'est Élisée qui va prendre ta place. Alors, Élisée a pris la place et on voit vraiment ce prophète qui a la puissance de Dieu, parce qu'il a demandé à Élie, oh, « Ce que j'aimerais le plus, vraiment, c'est de partir en char au ciel. » Non. Ce qu'il voulait, Élisée, c'était la puissance qu'il voyait en Élie. Il voyait la présence de Dieu en Élie. Il voyait la puissance du Saint-Esprit en Élie. N'est-ce pas? C'est le plus beau cadeau, la plus belle grâce à recevoir de Dieu. Et là, Élie a fait, juste avant cette histoire, Naaman avait un problème de lèpre. Il n'était pas du peuple de Dieu, mais quelqu'un du peuple de Dieu lui a dit, « Va donc voir Élisée, parce que c'est un homme de Dieu. » Et Naaman est allé, mais Élisée lui a donné une prescription, « Sauce dans le fleuve, cette fois, pour toi guéri. » Il dit, « Écoute, moi, des fleuves dans mon pays, j'en ai, donc je vais m'arranger avec ça. » Mais Naaman n'avait pas la foi en Dieu. Il avait la foi en Élisée. Mais il a compris quelque part que c'était un homme de Dieu. Il a suivi la prescription et il a été guéri. On est là dans cette histoire. Vous avez remarqué qu'Élie, quand vous lisez Élie, il avait un ministère vraiment de confrontation avec le peuple. Il disait de la part de Dieu au peuple, « Repentez-vous, vous êtes dans le péché. » Élie, lui, avait un ministère d'encouragement. Montrer la grâce de Dieu dans les petites choses de la vie comme dans les super grandes de la vie. Écoutez, guérir, apporter la guérison du ciel à Naaman, c'est une grande chose. Mais ici, vous avez remarqué le jeune homme qui sort de sa cognée, sa hache, qui est en train de bûcher son arbre pour faire une poutre, perd sa hache, elle tombe à l'eau. Un petit morceau de métal. Dans les deux, autant chez Naaman, autant chez ce jeune homme qui a perdu sa hache à l'eau, ce n'est ni la guérison de la lèpre, ni ramener le petit morceau de métal hors de la rivière qui sont importants. C'est de voir la puissance de Dieu. Ça va? Ça dépend si tu as un problème, tu as perdu ton portefeuille, ça dépend. Est-ce que tu veux retrouver ton portefeuille ou voir la puissance de Dieu? C'est quelque chose de spécial, voir la puissance de Dieu. Mais Dieu est puissant pour les petites choses comme pour les grandes. Et c'est ce qu'on voit à travers le ministère d'Élie. Dans la vie de ce jeune homme qu'on voit, un des fils des prophètes, les fils des prophètes, c'était un genre d'école, de formation des disciples. Et les prophètes, à l'époque, avait vraiment des gens qui voulaient apprendre de Dieu et se collaient à un prophète pour apprendre de Dieu. C'est comme on a aujourd'hui le maître et son disciple. On a aujourd'hui un chrétien mature qui voit des nouveaux croyants, des nouveaux disciples, des nouveaux chrétiens, et qui vraiment vit sa vie chrétienne. Et il y a des nouveaux disciples qui s'approchent et collent à lui et veulent apprendre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça va? Parce que Jésus a dit de faire des disciples. On ne fait pas d'un disciple d'un pécheur perdu, on fait d'un disciple d'un chrétien né de nouveau. C'est Jésus qui sauve les âmes. Nous, on a à s'en occuper, celles qui sont sauvées. En allant annoncer l'Évangile, il y a des gens qui vont venir à Christ. Mais il faut s'en occuper. Alors, les fils des prophètes avaient une petite école. Il y avait un prophète ici, Élisée, et Élisée faisait un magnifique ministère, et le lieu était trop petit. Alors les prophètes, les fils de prophètes ont dit, bah, écoute, vous voyez l'histoire. Et si on allait avec, avec toi chercher des poutres et agrandir ou rebâtir un nouveau lieu? C'est un beau projet, n'est-ce pas? C'est signe que Dieu travaille. C'est signe qu'il y a des gens qui sont intéressés à la parole de Dieu. C'est signe qu'il y a des gens qui veulent apprendre. C'est signe qu'il y a des gens qui veulent comprendre comment suivre le Seigneur. Maintenant, regardons le portrait de ce jeune homme qui s'adresse à Élisée. Et il y a plusieurs points intéressants dans sa vie. Et ça peut avoir des choses importantes dans notre vie personnelle. N'est-ce pas? Nous le trouvons, ce jeune homme, industrieux et nous le trouvons enthousiaste, n'est-ce pas? Il veut vraiment prendre part à l'œuvre de Dieu. On le voit vraiment d'abord, qu'il est en excellente compagnie. Il est un des fils des prophètes. Il est un des disciples qui veut apprendre, comprendre encore mieux qui est l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel veut dans notre vie. Il est en compagnie de d'autres gens qui veulent apprendre et comprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut dans notre vie. Élisée, enseigne-nous sur Dieu, enseigne-nous qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut dans notre vie. As-tu des amis chrétiens comme ça qui veulent apprendre et comprendre qui est Dieu? Est-ce que tu te tiens avec des enfants de Dieu qui veulent apprendre et comprendre? Est-ce que vous êtes une église qui veut apprendre et comprendre qui est Dieu? Est-ce que vous êtes des fils du prophète, du grand prophète, du souverain prophète, le plus grand des prophètes? Il est en excellente compagnie. Il a aussi un excellent projet. C'est trop petit, prophète Élisée, où on est trop petit, on est tassé, j'ai des amis qui peuvent venir apprendre, on aurait besoin d'espace. Il y a un excellent projet, on va agrandir notre lieu. Il avait une perspective vraiment comme Dieu. Il voulait que son œuvre, le Dieu veut que son œuvre prenne de l'ampleur. Il était du sang de Dieu, de l'esprit de Dieu, de l'ADN de Dieu. Il avait l'âme d'un pionnier. Non, non, ça ne suffit pas, ça, cet espace-là. Hé, prophète, on va aller vraiment aller au bois, aller vraiment près d'un lieu où on peut avoir des poutres et agrandir l'œuvre. Pas l'œuvre, mais la maison où on se réunit pour apprendre. Il avait une cause à cœur, ce jeune homme. Il avait la même cause que l'Éternel. Il voulait vraiment bâtir le royaume de Dieu. Poutre par poutre. Personne par personne. N'est-ce pas? Poutre par poutre. Personne par personne. Puis il avait aussi un excellent principe dans son cœur, ce jeune homme. Trouver le meilleur arbre qui va servir à l'édification du milieu. Parce que il est allé avec les autres et chacun voulait vraiment bâtir, couper un arbre, faire une poutre. Mais lui, il est un petit peu plus aventureux. Il s'est approché du Jourdain, il s'est approché de la rivière. Peut-être que les arbres étaient plus gros, n'est-ce pas? C'est vrai. Hein? Quand tu regardes près d'une rivière ou d'un lac, hein, les arbres sont gros. Il y a un nombre d'arbres. Il voulait vraiment avoir une grosse poutre, peut-être. Mais en tout cas, il s'est aventuré là. Parce qu'il avait vraiment à cœur de voir son travail, ses frères. Il voulait le meilleur du meilleur. Il y a un de ses hommes qui est en cuisine, qui s'appelle Ricardo, il part toujours, on veut le meilleur. Le meilleur gâteau, la meilleure tarte aux pommes, le meilleur pain, le meilleur du meilleur. Hein? C'est deux mots qu'il y a dans sa bouche constamment. Le meilleur des meilleurs. Mais ce jeune homme-là voulait aussi le meilleur pour le Seigneur. Tout d'abord, il s'en va près de la rivière, il commence à couper cet arbre. Quel beau portrait, n'est-ce pas, pour ce jeune homme. En excellente compagnie, un excellent principe,
d'être un travailleur. Et ce portrait peut nous ressembler, ça nous ressemble. Ça nous ressemble, ça nous ressemble. Être impliqué dans l'œuvre de Dieu, avec des bons amis, avec chercher le meilleur du meilleur, n'est-ce pas? Et avoir un principe de vouloir voir l'œuvre de Dieu. On a commencé tous comme ça dans la foi. Je vois qu'il y a des têtes grises spirituelles. Hein? Il y a des chrétiens de longue date, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont engagés dans le baptême, engagés de suivre le Seigneur, de le servir. Rappelons-nous vraiment, rappelle-toi tes premières années, zélés vraiment à donner des tracts à des gens, puis à voir qu'il n'y a pas personne dans ma vie qui ne connaîtra pas que j'aime Jésus et que l'amour de Jésus est important dans sa vie. Alors quand on commence à la foi, quand on s'engage dans le baptême pour vouloir suivre le Seigneur, on est engagé vraiment, et ça ressemble au portrait de ce jeune homme qui était engagé, zélé, passionné pour la cause de l'Éternel. Je me souviens de mes premières années, il n'y avait pas personne qui n'entendait pas me dire que j'aime Jésus. J'ai travaillé au Cégep Saint-Laurent et je devais mettre un zipper des fois parce que je devais travailler. Mais ma patronne me permettait au pause et au dîner d'avoir une table de littérature du Nouveau Testament. Et que quand j'étais en pause, ou quand j'arrivais avant l'heure de commencer, puis je partais après l'heure, je pouvais parler de Jésus. Je me demande si elle n'écoutait pas à la porte. Je ne sais pas. Mais on voit vraiment que nous, dans notre foi, dans le début de notre foi, on était toujours prêts à louer le Seigneur, à servir le Seigneur. Mais ce jeune homme nous ressemble un petit peu. Mais sa tâche a été interrompue. Ah, vous le voyez vraiment avec sa cognée là, poc, 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 ping, un coup de manche sur l'arbre. Sa cognée, son morceau de hache est parti dans le Jourdain. Sa tâche est arrêtée. Son zèle, son excellente tumeur, son excellent projet est arrêté pour lui. Les autres qui entendent, les autres continuent, mais le sien s'est arrêté. Sa hache est tombée à l'eau. Sa tâche est interrompue. Tout à coup, la cognée se déboîte du manche, tombe dans la rivière, et là, ne lui faites pas grande imagination pour comprendre qu'on ne coupe pas un arbre avec un morceau de bâton, n'est-ce pas? Tu peux avoir des gros bras, de l'huile de bras, tu peux avoir un excellent bâton, essaye pas de bûcher un arbre avec un bâton, n'est-ce pas? Ça résonne. Puis il n'y a pas un morceau vraiment de brindisi ou de morceau d'arbre qui va tomber à terre, c'est toi qui vas tomber à terre dans la sueur, dans la fatigue. Il a perdu sa cognée. Il ne peut plus couper l'arbre. Il a perdu la puissance qui coupait l'arbre. N'est-ce pas? Hein? J'étais en Beauce pendant des années, puis il y avait un monsieur, là, Caron, il était grand, il avait 2-3 pouces au plus que moi. Là. Il était très grand, avec des gros bras. Mais lui, quand je l'ai vu là, prendre une hache, pas assez mécanique, il faisait aussi assez, mais prendre une hache et couper un érable, là, c'est épatant. Il pouvait le couper, l'érable, là, il prenait 20, 25, 30 minutes maximum, il était à terre, il avait vraiment débranché, ça va, puis il était droit l'érable. Mais ici, le jeune homme, sa tâche est interrompue. Il a perdu sa poignée. Cette scène, pour moi, ne dépeint-elle pas quelqu'un au milieu de nous? On a perdu notre poignée pour abattre nos arbres. On a perdu la puissance qui fait qu'on va pouvoir gagner
les jeunes à devenir des poutres dans la maison de Dieu. On a perdu la puissance du Saint-Esprit, quelque part, en travaillant avec vraiment force, énergie, pour voir de plus en plus de gens venir dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et ce jeune homme a perdu sa poignée, son travail est arrêté. Les autres, on n'en parle pas, mais ça a dû continuer. Et je rencontre parfois dans la vie chrétienne depuis 1982, je suis dans le ministère, je rencontre des gens qui ont été évangélisés, mais n'ont pas vraiment abattu avec la cognée, mais avec le bâton. On a frappé sur eux avec toutes sortes de versets, d'approches, pour les gagner, les abattre pour qu'ils deviennent vraiment des poutres dans la maison de Dieu. Ils sont blessés, brisés, parce qu'ils ont été touchés par des croyants qui, en ayant perdu la cognée spirituelle, la puissance du Saint-Esprit, ont continué à évangéliser en frappant les gens avec leur bâton, avec leur puissance humaine, avec leurs moyens humains, sans la puissance de l'Esprit, sans les moyens du Saint-Esprit. Entre autres, on est sur la rue de Saint-André d'Argenteuil à sur la rue Grande-Côte, et il y a au bout de la rue, il y a des gens sur cette rue que j'ai tout rencontré, parce que j'ai un cœur de parler de Jésus. Et il y a au bout de la rue Bruno. Et j'ai parlé avec lui, la maison, il n'y avait même pas un arbre abattu sur le terrain. Il a arrêté, il me saluait. Il me dit, qu'est-ce que vous, qui vous êtes dans la vie? Eh bien, je suis pasteur missionnaire. Il dit, j'ai déjà été à l'église évangélique. Mais il y a des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, et qui m'ont fait sortir. Il avait été comme blessé, brisé par des bâtons, et non vraiment abattu dans la foi par une cognée spirituelle très puissante du Saint-Esprit. Mais quand même, malgré tout, je vois qu'il y a une sincérité en lui dans sa foi. Il désire avoir des rencontres avec la parole de Dieu. Et on veut en organiser une écoute-moi sur le rue. Priez pour cela. Et il y a beaucoup de gens au Québec. L'Église de Dieu grandit petit à petit. Mais il y a beaucoup de croyants qui ne sont pas encore devenus des disciples, des chrétiens de cœur, qui ont entendu ou été visités par des chrétiens, mais sans la puissance du Saint-Esprit, par la force des bras, par la force des moyens humains, mais pas par la puissance du Saint-Esprit. Ils n'ont pas été abattus pour devenir des poutres dans la maison de Dieu. Mais ils ont été blessés, brisés par différents coups de bâton. Ils n'ont pas été tranchés par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, mais blessés et brisés. Remarquons ici une chose. Vous avez vu la déclaration du jeune homme? Voyez comment il clame son désespoir au verset 5. Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Stéphanie, qu'est-ce qu'il dit, le jeune homme, au verset 5?
Dans ma version, quel malheur, maître!
Quel malheur, maître!
C'est une hache que j'avais empruntée.
Oh non, pas vrai, tu l'as empruntée! Elle n'a pas d'hache, toi! Il l'avait empruntée. On dit que l'école des prophètes, le fils des prophètes, c'était pas quelque chose de très riche. C'était pas les grands collèges avec les grandes façades, grandes tours, avec les grandes gyms et tout ça. C'était très sobre. Mais même un auteur, en lisant, ça pouvait être vraiment très simple, sobre et pauvre. Et que les gens n'avaient même pas d'argent pour acheter une cognée. Ils pouvaient l'emprunter. Certains pouvaient s'en procurer, mais d'autres devaient l'emprunter. Alors il a emprunté sa cognée et au malheur, en travaillant pour l'œuvre de Dieu, elle tombe à l'eau. il aurait pu se trouver des excuses. Il aurait pu dire, ah, c'est lui qui me l'a prêté, là. Il aurait pu faire attention, là, d'une manière hache un peu, là, tu sais, il aurait pu fixer davantage. Hein? Il aurait pu trouver des excuses, n'est-ce pas? OK, ben OK, la hache a tombé à l'eau, on va arrêter là. OK, moi je me repose, on va laisser, on va regarder les autres abattre leur arbre. N'est-ce pas? Il aurait pu trouver mille et une excuses pour arrêter, couper court à sa passion de servir vraiment à mettre des poutres dans la nouvelle maison pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas haussé les épaules. Il n'y a pas dit tant pis, ok, j'arrête tout. Ah, c'est pas de ma faute, là, c'est le gars qui m'a prêté cette poignée. Non, il n'a pas mis ça à l'extérieur de sa vie. Il dit, je l'ai perdu. C'est moi qui l'ai perdu. Je ne sais pas où je l'ai perdu, mais je l'ai perdu, ma connaissance. Vous savez, un jour, on aura à rendre compte, nous dit l'apôtre Pierre, de tout ce qu'on a fait ici sur la terre. Et l'échéance est plus courte que quand moi je suis né de nouveau, en tout cas. En 77, 2018, Jésus revient bientôt. Parce que en 77, je disais Jésus revient bientôt. Donc j'ai au moins 40 ans, presque 40 ans où Jésus, je peux dire, wow, Jésus revient vraiment bientôt, bientôt. Mais je vais rendre compte comment j'ai utilisé ma cognée spirituelle. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait des dons, nous fait la grâce de certains ministères. Le Saint-Esprit nous fait la grâce de lire et comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit désire vraiment nous donner tout ce qu'il faut, parce qu'il est la cognée spirituelle pour bien abattre les arbres des pécheurs de ce monde, pour les amener à faire partie du royaume de la maison. Le Saint-Esprit ne nous appartient pas. On nous l'a emprunté, on nous l'a prêté, le Saint-Esprit. Savez-vous, on nous a prêté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne m'appartient pas. Les dons ne m'appartiennent pas. Les ministères ne m'appartiennent pas. Jésus a dit, le Saint-Esprit sera avec vous, en vous, sur vous, mais jamais il dit, il sera à vous. Jamais Dieu dit dans la parole que le Saint-Esprit est à vous. Il ne vous appartient pas. Lui, il avait emprunté une cognée. La cognée ne lui appartenait pas. Il avait un travail à faire avec. Faire des poutres pour la maison de Dieu. Pour continuer l'œuvre des fils des prophètes. Faire des disciples. Et le Saint-Esprit ne nous appartient pas. Nous appartenons au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous fait des prêts jusqu'à la présence de Dieu. Et lui, c'est pour ça qu'il dit malheur, il était misérable. Il réalisait que, vraiment, cette famille ne lui appartenait pas. Et qu'il devra rendre compte de cela. Et il lui restait qu'un petit bout de bois dans ses mains, le manche. Il va continuer le ministère d'abattre l'arbre pour faire une poutre. C'est bon? Il s'est arrêté. Je l'ai perdu, la cognée. J'ai besoin d'elle. Je le reconnais. Je l'ai perdu, la cognée. Je l'ai perdu, la puissance du Saint-Esprit. Où je l'ai perdu? À quel moment je l'ai perdu? En compagnie de qui? En faisant quelque chose de spécial. J'ai perdu la puissance du Saint-Esprit. J'ai perdu la cognée spirituelle. Et ça, on le sait. Puis si tu ne sais pas, les autres voient. N'est-ce pas? Les autres voient là, que tu fais des œuvres humaines par l'homme. Tu fais vraiment des œuvres vraiment spirituelles, mais pas par l'esprit. Tu fais des œuvres vraiment de l'Église, mais pas par la puissance de Saint-Esprit. Mais que tu n'as pas de l'esprit. L'intervention de Dieu est nécessaire. Le Seigneur ne nous laisse pas avec la perte de la puissance du Saint-Esprit. Ça va? Le fils du prophète sait que Élisée est là pour l'aider. Élisée, c'est pas une vedette comme les grands prédicateurs dans ce monde. Élisée, c'est un homme caché qui se cachait derrière Dieu. Et tu vas voir quand tu vas lire la vie d'Élisée. Ce n'est pas de lui qu'on parle. On parle de Dieu en lui. On parle de Dieu dans sa vie. Et c'est étonnant d'avoir, pour moi, là, plus je les lis, plus je vois que l'importance, c'est Jésus. C'est pas monsieur, madame X, ni Y, ni Z, ni W. Ça va? On l'a chanté. Quel merveilleux nom de Jésus. Alors, l'intervention de Dieu est nécessaire pour restaurer la communion perdue. C'est un grand sujet de joie, un grand sujet de soulagement, de savoir plus qu'un, il y a plus qu'un grand Élisée près du fils du prophète. Il y a un grand Seigneur qui va lui retrouver sa communion. Pourquoi il s'est adressé à Élisée? Parce qu'il voyait qu'Élisée parlait avec le Dieu éternel et qu'il voyait descendre des miracles du ciel. Il a vu descendre la guérison sur Naaman. Est-ce qu'il peut ramener le cognée à mon manche de hache? Est-ce que Dieu peut faire des petites choses et des grandes choses? Égal. La puissance est nécessaire. Vous comprenez qu'ici, notre ami, le fils du prophète, n'a pas donné de truc pour sortir la hache de l'eau. Ça va? Nous, on est bon dans les trucs pour sortir nous sortir de la misère. Mais restons dans la misère et implorons la grâce de Dieu de nous sortir de la misère. Mais reconnaissons la misère qu'on a. Confessons la raison de notre misère, qu'on a perdu vraiment la puissance du Saint-Esprit. On a perdu notre cognée spirituelle. D'abord, il y a un côté humain. Vous voyez ce jeune homme, tout d'abord, il a reconnu franchement la perte de l'objet et dû confesser et en reconnaître la perte, ce qui a pris la place du Saint-Esprit dans ta vie, dans ma vie. Il faut le reconnaître, il faut le prendre. Qu'est-ce qu'Élisée a demandé? Où est-elle tombée? Elle est tombée dans le Jourdain. D'abord, quand tu travailles avec une hache, tu regardes l'arbre. Tu ne suis pas ta cognée, là. D'accord? Mais la cognée, elle est partie, mais il l'a entendu certainement tomber à l'eau. Ça fait fou. Il dit, elle est tombée dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est un Jourdain extraordinaire. C'est une rivière remplie de limons. Alors, c'est pas une rivière claire. Il n'a pas pu dire, ah, je vois. Elle a, oh, regarde, il y a des vieilles sandales, c'est peut-être celle de Moïse, non. Mais il a dit, écoute, il ne voit pas la mer, elle est remplie de limons, c'est comme brouillé un peu, ça va? Tout était en place pour un miracle de Dieu. Quand tu arrives à une situation, tu es misérable, tu dis, ça ne marchera plus, ça ne marchera pas, ça ne fera plus, tu n'as rien qui va arriver, oh non, c'est perdu, j'arrête tout, je ne fais plus rien. Mais tu es à bonne place. Les miracles se font quand on est dans la misère et quand on a arrêté de compter dans la foi en nous et qu'on réalise que seule la foi en Dieu va faire des œuvres étonnantes, merveilleuses, miraculeuses, vraiment qui va élever le monde de Dieu. Moi, je vois ici 40 minutes à ton
qui sont jugés jusqu'à ton jour. On peut-tu reculer?
Il y a un être humain, il y a un côté humain que le jeune fils prophète a dit. Tout d'abord, il a reconnu franchement la perte de l'objet. Il a dû confesser en reconnaître la perte. J'ai perdu. Et reconnaître que vous avez perdu la puissance du Saint-Esprit. Et comme je te dis, il y a des gens qui vont voir si tu vas confesser. Tu ne marches plus par l'esprit. La deuxième chose, humainement parlant, c'est qu'il s'adresse à Élisée. Parce que dans l'histoire, les fils de prophètes avaient dit bon, allons couper les belles poutres, on va agrandir ta maison, Élisée, pour qu'il y ait plus de fils de prophètes et qu'on grandisse leur. Élisée dit bien, allez-y, go ahead. Mais ils ont dit non. Élisée, tu viens avec nous. Si tu ne viens pas avec nous, on ne va pas. Et quelqu'un qui aime ça dans l'ancien Testament? Hein? Dans l'Exode? Non, Seigneur, nous, on va sortir, mais si tu n'es pas là, on ne va pas là. Alors, nous, on a beaucoup de beaux plans pour sortir, pour faire l'œuvre de Dieu, sans s'assurer que Dieu est avec nous. Comment? Alors, Élisée, il dit, ben, ok, j'irai. En tout cas, moi, je vois, tu n'es pas obligé de me croire, mais moi, je vois que aussi Élisée a coupé un autre. Parce que c'est écrit « il ». « Il » au pluriel. Il a travaillé avec eux. Le prophète travaillait avec les fils de prophète. Et quand on voit Jésus, là, quand il disait « allez évangéliser », il allait évangéliser comme ça. Alors, humainement parlant, la deuxième chose, c'est qu'il s'est adressé à l'Élysée. Comme toi et moi, on doit s'adresser à l'Élysée spirituelle de notre vie. Au Seigneur des Seigneurs, le Seigneur d'Élysée. Venir à l'Élysée de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, et lui dire, oh Seigneur Jésus, j'ai perdu ma puissance, j'ai perdu le tranchant pour mon ministère, j'ai perdu la cognée spirituelle, je te le confesse, voulez-vous vraiment confesser que vous avez perdu la puissance du Saint-Esprit? La troisième situation, humainement parlant, qu'on doit faire. C'est une question directe. Où est-elle tombée, ta cognée? Où ai-je perdu la puissance du Saint-Esprit? Écoutez, je ne suis pas un psychologue, psychiatre, qui ne va pas me voir, mais va voir le théorapeute du ciel. Théo pour Dieu, rappeur pour aide à ton âme. Il y a la thérapie, mais il y a la théorapie. Et c'est lui, il a vu où tu l'as perdu. Il sait quel chemin t'a pris. Il sait quelle personne t'a rencontré qui t'a attiré loin de la puissance du Saint-Esprit. Il sait quelle attitude t'a d'amertume, de colère. Il sait que quel lieu tu fréquentes. Il sait quel jeu tu joues. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, connaît ou t'a perdu la puissance du Saint-Esprit. Il le sait. Et quand la cognée de ce fils de prophète a tombé dans le Jourdain, Dieu a vu où elle a tombé. N'est-ce pas? Et il s'est adressé à la bonne personne. Il s'est adressé à Élisée, qui lui était connecté vraiment avec Jésus. N'essaye pas de voir un être humain qui n'est pas connecté avec Jésus pour t'aider. C'est vrai? Il va te diriger dans ce qu'il pense et non dans ce que Dieu dit. Dans ce qu'il voit et non ce que Dieu voit. Donc, il y a un côté humain. Et l'Esprit va nous guider, le Père va nous guider, le Seigneur Jésus va nous guider. Peut-être tu fais une alliance avec une personne et tu as perdu la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que tu
de commencer à fréquenter des lieux d'amusement mondain. Peut-être que ton habitude coupable, le mensonge dans ta vie. Le pasteur dont je disais une étude disait, oh, ce que j'avais de la misère avec un couple. J'avais de la misère avec un couple qui chicanait constamment et qui était un couple chrétien de longue date. Et là, je savais plus quoi dire. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur dire? Et lui, dans son cœur, vient une question à poser au couple assis devant lui. Est-ce que vous regardez de la pornographie? Il avait touché la place où ils ont perdu la puissance du Saint-Esprit pour vivre le couple. Il avait demandé au Dieu sa lumière et a reçu la lumière. Ou bien, est-ce un oubli modéré pour quelqu'un, quelque chose qui ne se conforme à rien à Dieu? La question se pose aujourd'hui, où ai-je perdu ta puissance, ô Dieu? Où est-elle tombée? Et Jésus-Christ va te conduire à l'endroit précis, à la personne précise, à la situation précise. Il y a un côté divin. Toujours étonné de voir Élisée dire un morceau de bois et un autre bois, ils coupent des poutres, hein, ils font des poutres, ça veut dire qu'il y a, hein, il y a de ben de morceaux de bois, un morceau de bois, il prend, jette-le à l'eau, il jette à l'eau, puis la hache d'instruire le morceau de bois. Hein. C'est toutes les lois physiques, ça, Joël, tu sais, un morceau de bois, ça frappe. Puis un morceau de métal, d'accord, ça calme. Ça va? Dieu est au-dessus des lois physiques. Dieu est au-dessus de tous tes raisonnements. Quand il arrive un sérieux problème dans ta vie, dans la vie de ton conjoint, des enfants, Dieu est au-dessus. Parce qu'il y a eu un jour deux poutres qui ont été mises sur le calvaire. Deux poutres qui ont été mises sur le calvaire. Et c'est en lui vraiment qu'on a toutes les solutions divines pour rencontrer nos grands besoins humains. Les plus grandes poutres qui ont été élevées sur le calvaire, c'est celle où Jésus-Christ a donné sa vie en rançon pour tous, pour payer le péché des pécheurs perdus et pour payer les péchés des chrétiens qui ont perdu leur puissance. Pour tous les péchés de tous les gens du monde entier, deux poutres ont été levées et Jésus-Christ a donné sa vie pour nous racheter, nous délivrer de nos péchés. Et ça veut dire une chose, c'est que Dieu t'aime. C'est difficile d'apprendre. D'apprendre que Dieu m'aime. Hein? C'est dur d'apprendre que Dieu m'aime, que Dieu t'aime, n'est-ce pas? C'est dur ça. C'est dur d'apprendre à aimer, c'est dur d'apprendre à être aimé de Dieu. C'est bon? C'est pas humain. C'est pas humain. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit qu'il verse en nous la réalité que Dieu nous aime même si on n'est pas aimable. Il y a un miracle qui s'est produit près du Jourdain lorsque des jeunes gens étaient en train d'abattre des arbres. Il y a un grand miracle qui s'est produit. Pas l'idée de bâtir un nouveau lieu pour rassembler les croyants et apprendre à connaître Dieu. C'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est de voir la puissance de Dieu pour retrouver la poignée perdue. Et ce miracle-là, ce matin, mes amis, on peut le voir ce matin ici, dans ce lieu, pour qu'on puisse tous et chacun de nous retrouver la puissance du Saint-Esprit pour que notre vie soit tranchante, juste, vrai, sincère, si on confesse je vous perdis, Seigneur de la puissance. Je sais où je vous perdis. Je me repens. Pardonne-moi. Je viens à ta croix, Seigneur, c'est de vous que tu as élevé et que tu as donné ta vie afin qu'on puisse vraiment, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'on puisse vraiment, Seigneur Jésus-Christ, trouver en toi le pardon, la restauration. Nous, en tant que tes enfants pour qui tu as donné ta vie, pardonne-nous nos offenses, comme vraiment toi tu sais le faire. Pardonne-nous d'avoir joué vraiment avec la puissance du Saint-Esprit. Et nous l'avons perdu, Seigneur Jésus-Christ. Tu as donné ta vie pour payer la dette de nos péchés. Nos péchés avant notre conversion, nos péchés depuis notre conversion et nos péchés ce matin ici. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Les seuls deux poutres élevées sur le calvaire sont suffisantes pour bâtir ta vie spirituelle. La dernière chose à faire, le verset 7. Tu veux lire le verset 7? Mon frère, tu veux lire 2 Rois 6, verset 7.
Lui, il dit, enlève-le, et il avança la main et le
Merci. Il y a des choses divines quand Dieu te parle à travers Élisée. Qu'est-ce que Élisée a demandé au jeune homme? Va le chercher. Tends la main. Beaucoup de gens lèvent les mains aux arbres. Timidement, les mains, quand ils adorent Dieu. Mais nos mains sont faites. On dit que la foi, c'est la main qui va chercher les bénédictions de Dieu. La foi, là, que j'ai, c'est je tends la main, je prends la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est qu'on retrouve tous ici, dans ce lieu, ce matin, la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'on reconnaît que nos mains sont souillées, sont impures, ont été vraiment souillées par le péché. On a manqué vraiment à vivre vraiment avec la cognée spirituelle de Seigneur. Je te demande pardon, je souillais mes mains, mes péchés sont à l'heure de toi. Pardonne-moi. Je crois à ta croix. Ton sang est suffisant pour me purifier. Il a tendu la main au jeune homme. Il n'était pas parti chercher un autre âge. Il était encore là. Il n'a pas fait appel à tous, à toutes les gangs, Hey, les gars, on va plonger pour aller chercher. Non, non, non. Il n'y avait pas un plan personnel, humain, pour retrouver la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu ne vient que du ciel. Elle ne vient pas dans des grandes conférences. Elle ne vient pas dans des grandes prédications. Elle vient, la puissance de Dieu, quand l'homme, la femme, les enfants s'humilie devant Dieu et reconnaît avoir perdu la puissance du Saint-Esprit. Pas avoir perdu le Saint-Esprit, avoir perdu la puissance du Saint-Esprit pour marcher avec Dieu dans la paix et dans la joie. Il a retrouvé sa lâcheté. L'histoire ne dit pas qu'il a continué à cogner sur l'arbre pour la latte. Mais je suis convaincu qu'il est tombé humilié devant le Seigneur. Nous avons à apprendre que Dieu aime à pardonner. Jonas a appris que Dieu aimait pardonner. Comment? Plutôt qu'à nous. Il l'a sorti miraculeusement du poisson, c'est qu'il l'a amené à faire un ministère des livres pour aller abattre les poutres pour ajouter au royaume de Dieu. Il y avait du monde là, qui se sont repentis. Hein? Dieu aime à pardonner Pierre, qui a plusieurs reprises
trouve en train d'argumenter contre Dieu. Alors, en plus, il le renie trois fois et Jésus va le voir. Jésus vient te voir ce matin pour que tu retrouves ta première salvation, pour que tu retrouves la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie copieuse, sans pareil, pour vivre une vie de parent extraordinaire, pour vivre une vie d'adolescence au-delà de ceux qui vivent leur adolescence, pour vivre ta vie d'aîné, de retraité, vraiment au-delà de tous ces retraités dans le monde qui pensent à vivre pour eux et pour eux et par eux-mêmes. Parce que la retraite, les amis, n'est pas ici-bas, elle est en haut d'une résidence éternelle qui m'attend, qui nous attend, avec un bénéfice financier éternel, sans problème, une pension vraiment complète, parfaite, n'est-ce pas? Et Pierre a sorti de ce reniement avec la venue de Jésus près de lui. C'est à vous maintenant d'avancer la main ce matin à Dieu. Des ouvriers qui disent Seigneur, me laisse lever, je me suis ta puissance de ma vie. Je sais où je l'ai perdu. Je ne sais pas où je l'ai perdu, mais je crois qu'elle peut me montrer où je l'ai perdu. Seigneur, prends ma vie en moi. Je veux retrouver la puissance. Redonne-moi ma connaissance. Prie. Loué soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, tu es grand et merveilleux. Si patient envers nous, si miséricordieux. Viens ce matin vraiment nous toucher, nous visiter, nous relever, nous réveiller, nous remettre sur nos bras, sur nos pieds, comme ce fils de prophète, et prendre notre cognée spirituelle, la puissance du Saint-Esprit que tu nous as donné dans ta grâce, pour continuer à te servir, peu importe notre âge. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, d'avoir vraiment, volontairement perdu la puissance du Saint-Esprit avec telle chose ou telle autre personne. Toi, tu le sais. Amène-nous tous. Amène-nous. Amène-nous tous. À rencontrer la personne, le lieu, l'événement, les circonstances où nous avons perdu la marche selon l'Esprit, dans la puissance de ton Esprit. Merci, Seigneur, pour tes grandes miséricordes. Merci, Seigneur, pour tes grandes bontés. Et donne-nous, redonne-nous, Seigneur, à notre pardon spirituel, la communion spirituelle, pour continuer à t'honorer et te servir. Que ta parole encore fait du bien dans nos âmes et touche en profondeur les grands besoins humains que nous rencontrons. Car c'est toi seul, Seigneur, qui es le grand thérapeute spirituel. Tu es le théorapeute qui fait du bien dans nos âmes. Que ton nom soit honoré, glorifié et béni, et que ce nouveau jour de commencer ou recommencer avec toi la marche selon l'Esprit, par l'Esprit. Par Jésus-Christ, au Père, humblement nous te prions. À toi la gloire, louange et honneur. Amen. Merci. Wow. Officiellement, je te dis à 58 minutes.